Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur RCN 90.7 dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h. Et aujourd'hui n'est pas une journée comme une autre, dans le sens où c'est une journée très importante. C'est la journée des droits, la journée internationale, voilà, pour être précis, la journée internationale des droits des femmes. Et donc, dans le cadre de cette journée, nous allons aborder le thème des masculinismes et des luttes féministes. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Elia Poncet-Georges, qui est ingénieure d'études en sociologie. Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Ouais, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je reçois aussi Dorothée, qui est représentante pour le collectif Nous Toutes 54. Bonjour.
Bonjour.
Et j'ai avec moi Nathan, qui va nous faire une chronique sur ce thème. Bonjour Nathan.
Bonjour.
Alors, pour commencer, on va essayer de définir les termes. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle, Elia, des masculinismes ?
Eh bien, quand on parle des masculinismes, alors on parle d'un ensemble, en fait, de penser à un mouvement qui a des positions qui ne sont pas toutes les mêmes au sein de ce mouvement, mais une des caractéristiques de ces mouvements masculinistes, c'est d'être notamment antiféministe. Mmh. Et donc, ce rapport au féminisme, en fait, aux différents féminismes, les masculinistes vont dire que, en fait, le féminisme serait allé trop loin et qu'il y aurait une sorte d'inversion des rapports de pouvoir qui existent. C'est-à-dire que là où, par exemple, on allait postuler constater, en fait, une domination et un rapport de pouvoir qui favorise des hommes au détriment des femmes, pour faire très simple, les masculinistes disent que la dynamique s'est renversée et qu'aujourd'hui, c'est les femmes et surtout les féministes qui auraient le pouvoir. Donc ça, c'est une des grosses thèses masculinistes.
Alors, donc c'est un mouvement, en fait, qui d'emblée s'inscrit dans son épiderme contre le féminisme.
Oui, tout à fait.
Alors, on va définir le ou les féminismes. Dorothée, quel terme on peut employer pour situer?
Alors bon, déjà, le ou les féminismes, c'est un terme qui est assez complexe à définir, puisque ça définit tout un ensemble de mouvements culturels et politiques, mais qui, dans l'ensemble, cherchent à atteindre l'égalité ou la libération des hommes et des femmes, et donc dans une perspective d'abolition du patriarcat, finalement. C'est assez compliqué de parler du féminisme puisqu'il y a beaucoup de mouvements féministes différents. C'est un mouvement, c'est des mouvements qui se sont construits sur le temps long de l'histoire. Donc il y a des féminismes qui sont spécifiques à des contextes nationaux. Par exemple, le féminisme français, c'est pas le même féminisme qu'on trouve aux États-Unis. Le féminisme actuel, c'est pas le même féminisme que celui des années 70. Généralement, on parle de vagues féministes, même si c'est une dénomination qui est assez débattue dans les milieux sociologiques, notamment, il me semble, pour un peu définir quels ont été les grands mouvements féministes sur le XXe siècle, notamment en Europe, enfin en Occident plus largement. Et donc les féminismes, je dirais que c'est avant tout des mouvements pour la libération des femmes, de toutes les femmes et de toutes les personnes qui sont affectées par le patriarcat.
Et donc, contrairement au masculinisme, le féminisme ne s'inscrit pas dans une lutte contre les hommes ou contre les...
Non, bien sûr que non. Évidemment, quand on parle d'abolir le patriarcat, les féminismes, c'est pas des mouvements qui sont contre les hommes, c'est des mouvements qui sont pour les femmes. Et aussi, en un sens, pour les hommes, dans la mesure où évidemment les hommes sont aussi dans une certaine mesure affectés par le patriarcat, mais le but, c'est pas une posture de détestation des hommes, c'est toujours la caricature qu'on fait du féminisme et qui est absolument pas contemporaine. C'est-à-dire que dans les premiers mouvements féministes, par exemple les suffragettes, elles étaient souvent caricaturées comme étant des hystériques qui détestaient les hommes, etc. Mais c'est pas fondamentalement un mouvement qui déteste les hommes, même si, évidemment, quand on prend une conscience féministe, c'est assez récurrent de ressentir une certaine colère, une certaine rancœur, surtout quand on a vécu soi-même ou quand on a été témoin de violences sexistes et sexuelles. C'est complètement légitime d'être en colère contre les hommes en tant que groupe social, donc en tant que groupe social qui bénéficie d'un système qui est en leur faveur, quel qu'il soit et quelle que soit leur position dans la société. Donc, si c'est pas un mot, c'est évidemment pas un mouvement de haine, mais c'est un mouvement de colère, de manière indubitable, je dirais.
Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent se prétendre comme étant féministes, ou alors on doit plutôt utiliser le terme d'allié féministe?
Alors, ça, c'est une question qui est assez débattue. Je dirais que la réponse dépend de chacun et de chacune, mais moi, personnellement, encore une fois, c'est ma position. Mes paroles n'engagent que moi. Mais moi, je dirais que c'est plus légitime de se revendiquer allié que de se revendiquer féministe, puisque la question qui se pose toujours, c'est est-ce qu'on peut se dire féministe si on ne vit pas soi-même l'oppression patriarcale? Donc, est-ce qu'on peut se revendiquer du mouvement de libération des femmes si on ne vit pas, soit dans sa chair, les oppressions qu'on subit, donc les violences sexistes et sexuelles dans toute leur largeur, donc ça va vraiment de l'insulte au viol, et également tout le reste des oppressions liées à la division sexuée des tâches, etc. Est-ce qu'on peut se prétendre féministe si on ne les vit pas? Moi, j'aurais tendance à dire que si le mouvement féministe doit être centré autour des femmes, c'est aux hommes de se mettre en retrait et de laisser les femmes prendre l'espace du mouvement féministe. Et à mon sens, c'est plus légitime de se revendiquer allié que féministe, parce que c'est une question de recentrer le débat sur les femmes, puisque évidemment, les femmes ont souvent été effacées de l'histoire et de l'histoire des idées politiques. Donc le mouvement féministe, c'est le mouvement des femmes pour les femmes, et à mon sens, c'est avant tout à nous de faire vivre ce mouvement. Donc pour moi, c'est plus légitime de se revendiquer allié que féministe en tant qu'homme.
Tout au long de cette émission, on va aussi aborder le thème de ce qu'on appelle les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles. Donc sur votre site noustoutes.org, il y a un décompte des féminicides, qui sont la forme la plus absolue des VSS, et à la fin du mois de février, on comptait déjà 31 féminicides depuis le début de l'année.
Oui. Bah oui, effectivement, les féminicides, c'est un peu le paroxysme de la violence patriarcale. Donc déjà, pour définir un peu le féminicide, c'est un meurtre commis d'un homme sur une femme, généralement dans l'extrême majorité des cas, dans le contexte conjugal, que ça soit par le compagnon, le mari ou l'ex-compagnon, très souvent. Et c'est un peu le paroxysme des violences sexistes et sexuelles, dans la mesure où c'est vraiment une volonté de domination absolue qui fait que, par exemple, dans le cas des féminicides, dans le cas des ruptures, puisque ça arrive très souvent au moment de la rupture, c'est vraiment un moyen pour ces hommes-là de poser leur droit de propriété, entre guillemets, sur le corps des femmes et sur le corps de leur compagne. Et donc c'est un enjeu qui est extrêmement central, puisque c'est vraiment des femmes qui meurent, et qui meurent de manière parfois extrêmement violente, puisque il y a peut-être certains cas très, très médiatiques qui vous viennent en tête, mais il y a des femmes qui ont été brûlées vives, par exemple, par leurs compagnons. Donc c'est généralement des morts qui sont extrêmement violentes, et c'est vraiment un peu la forme paroxystique du patriarcat, et c'est un enjeu politique central, puisque sous le mandat Macron, on est à peu près on va arriver aux 900 féminicides, donc depuis 2017. Évidemment, les féminicides, c'est en bout de chaîne de tout un tas de dysfonctionnements à plein de niveaux, notamment de dysfonctionnements de la part de la justice et de l'institution policière, puisque évidemment, on a toujours ces cas de femmes qui veulent porter plainte, mais dont la plainte est refusée, par exemple. Très récemment, on a eu ce cas d'une femme qui a appelé la police, puisqu'elle était donc victime de violences conjugales, et qui s'est fait insultée par le policier qu'elle a appelé. Donc elle s'est vraiment fait insulter, il lui a littéralement dit « démerdez-vous », pour ainsi dire. Et le lendemain, elle s'est fait rouer de coups par son compagnon. Donc les féminicides, c'est vraiment un fléau absolu, et c'est la forme absolue de la violence patriarcale.
Aujourd'hui, c'est l'un des combats les plus importants que vous menez. Et là, je me tourne vers Elia. Vous avez travaillé justement sur les masculinismes, sur la violence, les rapports de hiérarchisation. Quel lien on peut faire aujourd'hui entre les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, et cette notion de masculinisme?
Eh bien, les liens qu'on peut faire, déjà, en fait, c'est un peu dans l'appellation en elle-même. Donc, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, cette appellation-là, elle vise aussi à remettre au centre le fait que ces violences, elles s'inscrivent dans un système sexiste qui les permet, Déjà d'une part, et puis concernant les masculinismes, alors là on a parlé de la question des féminicides, ce qu'on constate aussi c'est qu'on peut aussi avoir des situations où il y a des attaques de personnes qui se revendiquent de certaines formes de masculinisme et qui en viennent aussi à tuer des femmes. Donc ça, le lien, effectivement, que ce soit des personnes qui vont être intégrées dans certains réseaux, en fait, finalement, et qui vont être publiques, mais en fait, publiques sur, justement, ce lien entre leur pensée et le masculinisme, il est là, mais il est aussi, effectivement, là, comme l'a très bien dit Dorothée, justement, quand des hommes en viennent à tuer des femmes et souvent leurs compagnes, justement, dans ces contextes-là. Et en fait, justement, cette notion de violence, par exemple, il y a eu un grand travail qui a été fait qui s'appelle l'enquête Virage et qui reprend justement sur les violences et les rapports de genre. Et justement, les autrices et auteurs de ce travail-là montrent aussi qu'il s'agit de violences virilistes et des violences de genre. Et c'est-à-dire que dans ces violences-là, en fait, on vise des personnes pour leur genre. Alors qu'il s'agisse de femmes, mais ça peut être aussi le cas, effectivement, des minorités de genre, des personnes trans, des hommes homosexuels, par exemple, en fait. Et du coup, il y a vraiment ce lien qui est fait. Et l'idée de violence viriliste, elle amène aussi à cette idée-là. Donc, bien sûr, il y a les violences sexistes et sexuelles, donc les violences sexuelles, voilà. Et il y a aussi plein d'autres formes de violences, ces violences du quotidien, et qui se tiennent là-dessus, qui se tiennent sur le fait que ce soit des violences qui aient pour but, donc, de limiter les femmes et les minorités de genre. Et par exemple, dans le cas des violences avec les hommes que j'ai rencontrés qui avaient subi des violences, c'est aussi des violences qui les sanctionnent parce qu'ils ne correspondent pas à un certain modèle de masculinité.
Oui, faut préciser que vous avez travaillé sur des hommes qui étaient victimes de violences, c'est ça, hein?
Oui.
Conjugales, plutôt
De violences sexuelles, alors ça allait de violences vécues dans l'enfance, de violences au sein de groupes de pairs d'âge, par exemple au lycée, au collège, et de violences aussi dans des relations conjugales, même si c'est minoritaire. Mais en tout cas, ça a représenté toutes ces configurations-là. Et c'était aussi souvent des parcours de violence, parce que justement, c'était des personnes qui dérogeaient à une certaine vision de la masculinité. C'était aussi pour ça qu'ils vivaient plus de violence, en fait.
Ça, on va revenir sur ces thèmes-là par rapport au virilisme, etc. Et puis les liens que ça a sur en tout cas les conséquences que ça peut avoir sur les luttes féministes. Il y a aussi un phénomène de ce qu'on appelle les incels. Est-ce qu'on peut essayer de les définir un peu? Les incels, donc, qui sont involuntary, c'est ça, hein?
Oui, oui, involontaires.
Voilà, les célibataires involontaires. Je laisse peut-être Dorothée prendre la parole là-dessus.
Les incels, donc les célibataires involontaires, c'est un ensemble de... C'est une communauté en ligne, on va dire, ou un ensemble de groupes qui se retrouvent surtout sur des forums ou aussi sur certains réseaux sociaux comme Reddit. Donc c'est surtout un mouvement qui est anglophone à la base, qu'on retrouve beaucoup au Canada et aux États-Unis notamment. Et donc les célibataires involontaires, c'est ces communautés en ligne d'hommes, quasi exclusivement d'hommes, plutôt jeunes en général, et dont le discours de fond est qu'ils sont donc célibataires dans le sens d'un célibat subi, pas choisi, et que ce célibat serait la faute des femmes, parce que les femmes ne voudraient pas les choisir, parce qu'ils seraient trop moches, ou alors trop pauvres, ou trop pas dans les carcans de masculinité
qui correspondent pas au mâle alpha,
voilà.
En tout cas le stéréotype.
Donc tous les hommes qui ne correspondent pas au stéréotype du mâle alpha, effectivement. Et donc c'est cet ensemble de groupes qui va... vraiment tenir cette rhétorique-là, qui débouche du coup sur une rancœur et vraiment sur une forme de misogynie parfois très intense et de haine des femmes dans ce genre de groupe. Et malheureusement, étant donné que les incels, c'est une communauté qui est assez fermée, qui donc se retrouve vraiment sur des forums par exemple, ça crée dans un certain sens des chambres d'écho qui peuvent être assez dangereuses, puisque comme l'a déjà dit Elia, il y a déjà eu des cas d'attentats commis par des incels, donc par exemple la tuerie d'Isla Vista en 2014 par Elliot Rodger, ou par exemple l'attaque à la voiture Bélier en 2018 par Alec Minassian, donc commise par des hommes qui se revendiquaient incels ou qui étaient plus ou moins liés à ces mouvements-là. Donc il y a vraiment une forme de risque de radicalisation en un sens, donc vraiment de radicalisation haineuse. Et évidemment, dans le mouvement incel, il y a toute cette rhétorique victimaire de la gynarchie, entre guillemets, donc l'idée que les femmes seraient devenues dominantes dans la société et que ça expliquerait pourquoi les hommes ne pourraient plus trouver de partenaires parce que C'est d'ailleurs assez intéressant parce que vraiment les incels c'est un univers en soi, il y a tout un jargon propre aux incels, c'est un milieu qui est assez passionnant.
La pilule bleue, la pilule rouge, est-ce qu'on peut expliquer un peu pour nos auditeurs ces notions de pilule empruntées à Matrix à la base?
Exactement.
Au film.
Donc j'avoue que j'ai pas fréquenté les milieux incels avec grande assiduité, mais pour avoir un peu étudié le sujet avec certaines camarades dans le cadre de mes études, la pilule rouge ce serait en gros l'idée que ce serait en gros prendre la pilule rouge, c'est l'idée de voir le monde comme il est vraiment, donc voir cette gynarchie et cette domination subie par les hommes, alors que le reste serait des espèces de moutons qui seraient matrixés justement par le discours dominant machin, les femmes sont victimes, alors que non, pas du tout, c'est les femmes qui nous oppressent, etc. Mmh. Et donc il y a vraiment cette volonté de quelque part se mettre à l'écart et dire... Ouais, nous, on voit les choses comme elles sont réellement et on porte le discours qui est vrai finalement et que la société ne veut pas entendre.
Et on voit que ces discours sont notamment promus par des personnages. On parlait du lien avec Internet sur les réseaux sociaux, des personnages comme l'ancien boxeur Andrew Tate. Qui est aujourd'hui en prison, qui lui, notamment, parle beaucoup de ces notions de pilule rouge, pilule bleue. Vous le disiez, en fait, finalement, même si ces réseaux-là sont principalement sur le web, ça a des conséquences sur le réel avec les agressions.
Oui, bien sûr.
Enfin, contre les femmes, pour ce qu'elles sont.
Oui. Déjà, pour moi, quand on parle de masculinisme, c'est un terme qui est très vaste, et pour moi le masculinisme c'est une rhétorique surtout, c'est pas vraiment un mouvement, parce que ça regroupe tellement de groupements en ligne différents, comme les incels, mais il n'y a pas que ça, il y a les pick-up artistes ou les men going their own way, donc les hommes qui ont décidé de faire sécession des femmes et de ne pas se mettre en couple pour se concentrer sur eux-mêmes. Donc pour moi le masculinisme c'est plus un discours qu'un mouvement vraiment, et évidemment il y a toute un espèce de continuum du discours masculiniste qui se retrouve dans ses formes les plus extrêmes dans les milieux incel, où c'est clairement des discours de haine et de rancœur parfois assez ouverts, à des rhétoriques masculinistes qui sont un peu plus mainstream entre guillemets, donc l'idée que le féminisme serait allé trop loin, que les hommes seraient genre émasculés par le féminisme,
voilà,
ou ce genre de
trucs. Il dénonce la féminisation de la société, si j'ai bien compris.
En fait, c'est l'idée de la crise de la masculinité qui revient constamment, donc l'idée que la masculinité serait en crise et qu'il n'y aurait plus de vrais hommes, alors que la rhétorique de la crise de la masculinité, elle existe vraiment depuis l'Antiquité. Ça fait depuis des siècles et des siècles que...
Depuis le mythe des androgynes.
Voilà, tous les ans, il y a des hommes qui viennent nous dire « il n'y a plus de vrais hommes dans la société, machin ». Et donc, ce genre de discours viriliste, ça se retrouve même chez des personnalités politiques. Enfin, quand vous regardez le discours d'un Éric Zemmour ou d'un Alain Soral, si vous lisez Le premier sexe d'Éric Zemmour, c'est clairement un bouquin masculiniste au sens de cette rhétorique. Quoi.
Les liens entre féminité et pouvoir, il me semble que vous avez aussi travaillé dessus, sur ces liens entre masculinité et pouvoir, justement, Elia.
Ouais, alors, c'est vrai que là, je me permets de rebondir aussi sur la question un peu... Effectivement, les masculinismes, c'est très hétérogène. On va dire qu'il y a plein de groupes différents et du coup, il y a des positions différentes, des théories qui sont différentes. Là, Dorothée vient de parler, justement, avec cette idée de la crise de la masculinité, de la féminisation de la société... Donc, qui va aussi avec l'idée d'une dévirilisation des hommes, les hommes ne seraient plus des vrais hommes, etc.
À dessein, c'est ce qu'il critique, que ce soit pas un mouvement qui se fasse sociologiquement, naturellement, mais que c'est une volonté des femmes, en fait, finalement, c'est ça, avec un objectif,
ne
m'abuse.
Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, il y a des canaux de diffusion qui sont aussi à prendre en compte et qui sont pas les mêmes. Alors là, on a parlé effectivement des forums, de plein d'espaces en ligne, en fait, où justement, on trouve aussi cette rhétorique. Et c'est vraiment aussi une rhétorique qui est de l'inversion et de se dire, on est les personnes minoritaires. Si on ne nous entend pas, c'est justement parce qu'on essaye de cacher notre parole. Et on est les victimes. Et donc, il y a effectivement tout ce jeu-là. Et puis, à côté de ça, effectivement, on a des personnes médiatiques qui ont des accès, en fait, des accès à des plateaux télé et qui, justement, dans un contexte où on va aussi chercher à susciter des débats... en mettant des personnes avec des positions très opposées, et donc notamment Éric Zemmour, justement, qui vont aussi diffuser diffuser ces pensées politiques masculinistes-là, quoi.
Alors, on va s'octroyer une petite pause musicale. On a parlé notamment des violences, hein, qui ont un effet dans le réel. C'est le thème qu'aborde l'artiste Luz N de Yakuza dans son morceau 4 heures du matin.
Quatre heures du matin, fatiguée, je cherchais mon chemin et je croise de chauds lapins, prêts à faire de moi leur petite putain. L'un d'eux m'attrapa les mains, les autres le regardent, l'heure de rien. Je crie, je me débat enfin, et mon petit cœur me dit que c'est la fin. Que vont-ils faire de moi? Qu'ai-je fait de mal? Que vont-ils faire de moi? Qu'ai-je fait de mal? Les diables n'ont pas de couleur. Lâches, ils sont venus à plusieurs. Je n'ai pas vu mes agresseurs. Je me souviens juste de leurs odeurs. Où tu te caches, espèce de lâche. Où tu te caches, espèce de lâche. Quatre heures du matin, une jolie fille cherchait son chemin dans sa belle robe de satin. Elle m'excita, je n'y pouvais rien. J'ai vite appelé Martin. On allait la souiller avec nos vieux machins. Elle qui joue si bien à la sainte, on va la foutre enceinte. Que vont-ils faire de moi? Qu'ai-je fait de mal? Que vont-ils faire de moi? Qu'ai-je fait de mal? Les diables n'ont pas de couleur. Lâches, ils sont venus à plusieurs. Je n'ai pas vu mes agresseurs. Je me souviens juste de leurs odeurs. Où tu te caches, espèce de lâche. Où tu te caches, espèce de lâche. Quatre heures, quatre heures, quatre heures du matin. Quatre heures, quatre heures, quatre heures du matin.
Heures, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est en direct sur RCN 90.7 avec Elia Poncé-Georges, ingénieur d'études en sociologie, et Dorothée, représentante de nous toutes 54. On parle des liens, des conséquences des masculinismes sur les luttes féministes, et on vient d'écouter à ce propos le morceau de Luz N de Yakuza, 4 heures du matin, qui revient sur ces notions de VSS, donc de violence sexiste et sexuelle. Luz N de Yakuza expose une agression envers une femme, parce qu'elle est une femme, qui arriverait donc dans les rues de nos villes à 4 heures du matin. Ces notions-là, aujourd'hui, elles sont très importantes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les notions de VSS?
Pour ramener quelques chiffres que j'ai ramenés avec moi, histoire de poser le débat et de quoi on parle. Donc, en 2023, il y a eu 114 000 plaintes pour violences sexuelles et sexistes, à savoir, évidemment, truc très important à se rappeler, c'est que quand on parle des plaintes et des condamnations et même des chiffres sur les violences sexuelles, il faut toujours se rappeler que c'est sous-déclaré, puisque la majorité des victimes ne parlent pas, ne parlent parfois jamais. Donc c'est toujours des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes et qui sont en général des estimations basses et pas des projections qui seraient grossies, bien au contraire. Donc 114 000 plaintes pour VSS en 2023, 85% des plaignantes sont des femmes. Et 57% d'entre elles sont mineures. À savoir que selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, par an, en moyenne, le nombre de femmes de 18 à 74 ans qui seraient victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques par leur conjoint ou leur ex-conjoint, il est estimé à 321 000 par an. C'est énorme. Et le nombre de femmes sur la même tranche d'âge qui seraient victimes au cours d'une année, hein, sur un an, hein, pas au total, sur une année, qui seraient victimes de viol, tentatives de viol et ou agressions sexuelles, il est estimé à 217 000 femmes. 6% des victimes portent plainte, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Et donc, comme on l'a dit, l'an dernier, on a décompté 134 féminicides. Et à l'heure actuelle, pour cette année, on en est à 31 à peu près. Et aussi, pour parler des violences sexuelles faites aux enfants, thème également très important, on estime que par an, c'est 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 5,4 millions d'hommes et de femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles dans leur enfance. Donc selon la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVISE, ça fait un ou une enfant violée ou agressée toutes les 3 minutes en France. Dans 81% des cas, c'est dans le cadre intrafamilial ou, enfin, comme pour les viols, en fait, c'est dans le cadre de quelqu'un qui est connu de la victime. Donc ici, pour les enfants, en fait, c'est surtout des cas d'inceste. Donc les cas de pédocriminalité par des inconnus complets, c'est rare, tout comme c'est le cas pour les viols, puisqu'il faut rappeler que aussi dans les viols, il y a énormément de viols conjugaux, donc de viols commis dans le cadre du couple. Et 3% des agressions sexuelles sur enfants débouchent sur une condamnation. Et ce chiffre est de 1% dans les cas d'inceste. Donc finalement, on voit que encore aujourd'hui, en 2024, les violences sexuelles et sexistes, c'est quelque chose qui est massif. Si on prend l'ensemble des violences sexuelles et sexistes, donc ici on parle des viols et des agressions, mais si on prend aussi le harcèlement de rue par exemple, ou les remarques sexistes
que Lucène de Yakuza mentionnait dans son morceau,
exactement, hein, c'est des chiffres qui sont absolument massifs. Et je pense que si on fait un peu attention dans son entourage, qu'on soit un homme ou une femme, on connaît forcément quelqu'un qui a été victime de ce genre d'acte, si on n'a pas été soi-même victime, évidemment.
Et là, c'est une question très importante. Il y a un réel sujet là sur la question de la prise de parole, le fait d'aller dénoncer. Alors, on sait que ici en Occident, le mouvement MeToo a contribué à une certaine mesure à délier les langues et à essayer de mettre les sujets sur la table. Mais il y a une vraie influence là, et là on peut parler même parfois peut-être de masculinité toxique, parce que pour des hommes qui ont été victimes de violences, de viols, etc., il y a peut-être parfois une difficulté là aussi à prendre la parole. Vous avez travaillé là-dessus, Elia.
Ouais. Alors peut-être aussi que je précise effectivement qu'avec la libération de la parole, on peut se dire effectivement là, en quelques années, on a eu MeToo théâtre, MeToo cinéma, on a eu MeToo inceste, là il y a eu MeToo garçon qui a été lancé.
Balance ton rappeur,
c'est ça,
balance ton producteur.
Ouais. Et donc en fait tous ces MeToo là, ça montre que en fait la parole, elle est là. La parole, elle est là. Et en fait, ce qui fait que on est dans une multiplication des MeToo et des prises de parole, mais qui, concrètement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on en fait de ces paroles? Et qu'est-ce qu'on fait en termes d'actes derrière? Et voilà, donc ça, c'était une première chose. Et puis, pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, la manière dont on est socialisé, la manière dont on apprend, en fait, à être un homme, à être une femme, etc., elle va avoir une influence sur est-ce qu'on parle des violences ou pas. Et bien sûr qu'on intègre certaines choses qui font qu'on ne va pas parler des violences, ou plus difficilement. Mais c'est toujours aussi en lien avec les réactions qui sont possibles. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un homme qui aurait subi des violences sexuelles, il y a aussi la question de quel retour on va lui faire s'il les évoque. Et donc, dans les discours de ces hommes rencontrés, il y a aussi cette question du retour. C'est-à-dire, alors, donc déjà, par exemple, avec des rapports, justement, de dire la question de la force physique. Bon, t'es un homme, t'aurais pu te défendre. Tu t'es pas défendu. Donc déjà, en fait, un peu des critiques, des retours, en fait, qui viennent invalider les violences parce qu'elles correspondraient pas à ce que devrait être un homme. Et c'est la même chose, en fait, de se dire, bon, tu dis que t'as vécu des violences. Bon, c'est un peu... Je vais dire des choses qui sont pas forcément agréables à entendre non plus. Hein. Et typiquement, aussi, des discours qui vont être là en mode, si c'est, par exemple, par des femmes, de se dire, en même temps, c'est pas des violences parce que tous les mecs ont envie d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, enfin avec des femmes. Femmes, oui. et donc il va avoir vraiment toutes ces rhétoriques là en fait qui font que si c'est avec des femmes, ça devrait pas être vécu comme des violences. Mmh. Et donc c'est aussi la construction, comment on construit un rapport à l'hétérosexualité qui pourrait pas en fait poser la question des violences, la question de la force physique, la question aussi de l'homophobie en fait qui vient se lier. Et par exemple le fait d'avoir vécu des violences par un homme, ce qui est majoritairement et statistiquement plus le cas, et ben dans ces cas-là de se dire si on est un mec gay par exemple et qu'on a vécu des violences par un homme, à quel point aussi on va se faire appliquer cette rhétorique de se dire oui mais du coup si toi t'aimes les hommes, est-ce que c'était vraiment des violences? Donc en fait il y a tous ces mécanismes-là qui rendent la parole compliquée et donc ça joue effectivement beaucoup sur la prise de parole des personnes victimes.
En termes de prise de parole, on a au moins des poètes, des artistes qui essayent de s'exprimer sur ces sujets-là. Et cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer Isor à l'association dont j'oublie le nom, mais que je vous dirai tout à l'heure. Donc Isor, qui est poétesse et qui s'exprime sur cette notion de féminisme et de masculinité.
La définition du féminisme, c'est la valorisation du féminin.
Quelle est la place aujourd'hui des artistes sur des sujets comme le féminisme? Est-ce qu'il faut se positionner? Oui ou non? Si oui, comment? Est-ce que ce sont des questions qui touchent l'art aujourd'hui?
Je pense que oui. Donc il y en a qui ressentent le besoin de se positionner, il y en a qui, pour qui se revendiquer artiste va de pair avec un positionnement, et pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Pour ma part, non. J'ai rien à revendiquer pour l'instant, si ce n'est moi-même.
Et en tant qu'artiste, est-ce que tu te sens féministe, ou est-ce que tu peux dire que ton art appartient au courant féministe?
J'ai l'impression que oui. Parce que dans tout ce que j'ai pu produire jusqu'ici, j'ai rencontré énormément d'échos, de résonances avec la pensée féministe, on va dire. Et j'ai beaucoup de retours en ce sens. Moi, ça me surprend, parce que j'ai pas l'impression de... Je viens pas comme ça, estampillée comme ça, je suis féministe. Oh, oh. Mais il y a beaucoup d'échos. Et forcément, parce que je suis une femme et que je vais parler... mon écriture, elle est assez sensorielle. Tu vois, je pars, je peux écrire sur plein de choses, mais ça va toujours être traversé par mes sensations corporelles. Mon vécu, mes souvenirs. Après, les souvenirs, c'est une matière un peu moelleuse. Mais du fait que je suis une femme, en tout cas avec un corps féminin, j'ai traversé ce que traversent beaucoup de femmes, beaucoup de personnes avec des corps féminins. Et forcément, il y a écho.
Finalement, c'est presque malgré toi que tu abordes des thèmes féministes, ou alors on peut dire que tes écrits sont traversés par une forme d'oppression du masculin.
Oui, oui, ça c'est mon parcours de vie qui fait ça. Voilà.
Quels sont les retours justement? Parce que tu me disais que tu écris pour faire de l'art, pour déclamer ta poésie, pour t'exprimer. Et finalement, comment les retours te laissent entendre que tes écrits rejoignent les combats féministes?
Alors, comment est-ce que je m'en rends compte? C'est, c'est parce qu'on me le dit clairement, déjà, tout simplement. Donc moi, ça me surprend, parce que j'écris pas avec une idée derrière la tête. Donc ça, c'est juste ma façon d'écrire. On me le dit, et je relis ce que j'ai écrit, et je fais « Ah bah oui, c'est vrai ».
Comment est-ce qu'on s'est accueilli ces écrits par les personnes qui écoutent ou qui lisent ce que tu fais? Est-ce que, parce que aujourd'hui on parle du féminisme, on parle aussi du masculinisme, oui. On parle notamment des pressions des masculinistes sur les féministes, ou alors les personnes qui seraient apparentées au mouvement féministe. Est-ce que toi tu ressens ces pressions-là, des échos du genre ou...
De temps en temps. Donc je sais que ça existe, donc je le vois principalement sur les réseaux sociaux, parce que je suis pas très, je sors pas beaucoup, je suis pas très sociale comme Nana. Je le vois aussi dans mon quotidien, enfin dans mon quotidien professionnel, on va dire, quand je vais bosser, je vois bien comment les choses sont clivées, comment chacun a ce qu'on attend de la gente féminine et ce qu'on attend de la gente masculine, ce qu'on attend aussi de la gente masculine. Donc je le vois là. Et de fil en aiguille, en fait, c'est comme une sorte de conscience politique qui s'éveille. Tu vois, tu écris, tu donnes à lire ou tu donnes à entendre, et du coup, ta réflexion s'affine. Donc, elle s'enrichit, en fait, du retour des autres, parce qu'il y a vraiment un aller-retour. Et c'est au-delà, finalement, ta conscience politique s'éveille au-delà de ces questions-là, hein, donc du patriarcat, machin, C'est vraiment une conscience politique plus essentielle.
Elle s'acquiert, en fait, finalement, cette conscience-là, au fur et à mesure que tu évolues dans ton art, ou même indépendamment de ton art
Au fur et à mesure, c'est concomitant. Ça vient avec. C'est quelque chose que je découvre, en fait. Hein, je peux avoir des discussions, finalement, intéressantes et passionnées avec des personnes militantes. Et voilà, ça me surprend, ça m'étonne, mais je suis contente à mon âge d'avoir un peu de fraîcheur comme ça dans ma vie.
Comment l'art peut permettre de transcender ou du moins d'aborder ces questions-là? Quel est le rôle de la poésie par rapport à tout ça?
Ça dépend. Ça dépend comment toi tu te positionnes en tant que poète. Qu'est-ce qui fait que tu vas écrire déjà? Et qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Donc si toi tu es mu vraiment intérieurement par cette volonté d'œuvrer pour cette cause-là, alors effectivement ton art va contribuer à faire avancer cette cause-là. Après tu peux pas du tout avoir ce genre d'objectif, mais ça peut contribuer aussi. C'est juste un éveil de conscience en fait.
C'est juste un éveil de conscience, et donc je remercie Isor d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, et on s'est rencontrés donc à l'association Court Circuit à l'AXOU, que je vous recommande vivement. Est-ce que vous avez des réactions, Elia, Dorothée, par rapport à ce qu'on a entendu, Isor qui disait justement qu'en tant qu'artiste, elle se retrouve placée dans un carcan féministe malgré elle, tant ses écrits en fait regorgent d'une sincérité qui pourrait être traversée par de nombreuses femmes. Dorothée.
Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans son témoignage, c'est l'idée de prise de conscience politique, l'idée vraiment d'un éveil politique qui s'est du coup traduit par son art et par les échanges qu'elle a pu avoir dans le cadre de ses activités en tant que poétesse. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est vrai que le féminisme, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel sur les gens. Ça nécessite une prise de conscience et un éveil politique. Il n'y a pas de meilleur terme que ça, je trouve, puisque le féminisme, c'est éminemment politique, c'est une lutte politique. Le féminisme, c'est pas que du lol, c'est une lutte politique et qui nécessite de prendre conscience de différents sujets politiques. Donc, à commencer par, évidemment, l'oppression des femmes et le patriarcat, et l'oppression de toutes les personnes qui sont affectées par le patriarcat, donc aussi les personnes LGBT+, les personnes trans, les personnes homosexuelles, etc., etc. Mais c'est aussi la prise de conscience d'autres phénomènes politiques. Par exemple, à mon sens, c'est plutôt compliqué d'être féministe sans s'engager contre l'extrême droite, puisque c'est assez évident que la montée de l'extrême droite en France et partout en Europe, ça représente un danger assez imminent pour les droits des femmes et des minorités de genre et sexuelles. Donc pour moi, je trouve que cette question de l'éveil politique, elle est très intéressante, puisque le féminisme, ça apporte aussi, enfin en tout cas c'est mon expérience, mais ça m'a apporté un éveil politique sur d'autres questions, notamment les questions antiracistes par exemple, les questions sur les droits des enfants, sur l'inceste notamment, dont on parle de plus en plus dans le mouvement féministe, sur l'anticapitalisme aussi, et sur tout le reste des luttes sociales et des luttes politiques à gauche en l'occurrence, ou à l'extrême gauche, qui sont liées, ou pour certains et certaines découlent du féminisme ou sont influencées par le féminisme. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant.
C'est vrai que c'est, féminisme et extrême droite, ça semble antinomique, parce que quand on regarde aujourd'hui dans l'espace médiatique, même sur des youtubeurs connus comme Papacito, des youtubeurs d'extrême droite qui se veulent anti-féministes, hein, ouvertement, ou vous avez mentionné tout à l'heure en termes de politique, politicienne Éric Zemmour, et on a même des femmes qui sont anti-féministes. Je pense à l'ancienne tête de génération identitaire, Thaïs Descuffon, qui se dit ouvertement anti-féministe, ou même à ce qu'on appelle la droite dure, des personnes comme la journaliste Eugénie Bastier, qui est anti-féministe. Et je laisse peut-être Elia réagir sur ce qu'on a entendu des propos d'Isor.
C'est vrai que de ce que dit Isor, effectivement, il y a toujours cette question de, à un moment, de partager un espace. Et en fait, quand on lit des poèmes, quand on fait du slam, etc., ça fait aussi une caisse de résonance où il y a une expérience à un moment qui est individuelle, qu'on porte avec un poème, qui fait écho à plein d'expériences collectives. Et je pense que, effectivement, ces lieux-là peuvent aussi être des lieux, justement, où on va se retrouver, alors soit à avoir des situations communes, partagées, et que ça prend en fait un ampleur parce qu'on s'en rend compte, en fait, effectivement, avec cette idée de la conscientisation. Mmh. Et que ce soit sur beaucoup de luttes, et je pense qu'effectivement, quand on parle de son expérience, souvent, il y a aussi des luttes qui s'y lisent, et que les lieux tels que les scènes slam, dont on a à Nancy des beaux exemples aussi, peuvent
permettre. On salue nos amis slameuses, nos amis slameurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et on va donc passer à la chronique de Nathan, qui, tout au long de la semaine, s'est interrogé sur ces questions. Nathan.
Bien sûr. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est celui des violences sexistes et sexuelles, les VSS contre lesquelles luttent les militantes du collectif Nous Toutes, ici présentes en la personne de Dorothée. Face à ces chiffres significatifs, une question se pose et s'impose. Comment en est-on arrivé là ? Question large car sujet vaste. La situation actuelle des femmes dans nos sociétés résulte d'un nombre considérable de facteurs. Il est donc particulièrement difficile d'en aborder les tenants et aboutissants de manière exhaustive. C'est pourquoi j'ai choisi de centrer ma chronique sur l'influence de la pop culture quant à notre perception des femmes, et plus précisément sur les ravages de l'industrie musicale. La pop culture, comme son nom l'indique, c'est la culture du peuple, celle qui se veut accessible à tous et qui s'oppose par nature à la culture élitiste. Et c'est là que le danger se niche. En s'adressant à un plus large public, la pop culture constitue un vecteur majeur d'idées en tout genre. Elle permet alors une propagation massive de diverses formes de discrimination, comme le sexisme.
Mais comment la musique peut-elle être responsable des violences conjugales, des injures, du harcèlement, des agressions sexuelles et des viols ?
C'est tout d'abord une question d'image. La musique, par son pouvoir d'influence, transmet une idée des femmes, formant un ensemble qui aurait par défaut les mêmes désirs, les mêmes passions et un certain sens de la docilité. On trouve en effet une certaine propension, volontaire ou non, à dégrader et à caricaturer les femmes. À travers les clips musicaux notamment, on les retrouve groupés, servant de décor, d'accessoires pour l'artiste. Évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer Claude François et ses Claudettes, les célèbres figurantes qu'il accompagnait dans ses tournées et ses clips dans les années 60 et 70. Elles occupaient alors un rôle purement cosmétique dans un souci de faire du sensationnel. Ainsi, Claude, sur son 31, se postait en conquérant sexuel, en mal désiré, riche et puissant, au milieu de ses femmes dénudées ou presque, dansant tout autour de lui. Quelques décennies plus tard, on retrouve la même instrumentalisation dans les clips de hip-hop, où les danseuses provoquent et sont sexualisées encore davantage. Le rappeur Tyga est un habitué aux clips du genre, dans lesquels il associe le succès au fait de collectionner les femmes. Le clip de Taste, son morceau le plus écouté, qui cumule plus de 1,5 milliard de vues sur YouTube, regorge de femmes en bikini qui twerkent et dont les fesses sont aspergées de chantilly par le rappeur. D'autre part, le sexisme ne passe pas obligatoirement par l'image visuelle de femmes que l'on paye pour danser et se rabaisser. Il réside également dans les textes et les moqueries explicites. Dès les débuts du rock, chez les Rolling Stones, on se travestit en femme, on se maquille à outrance et on adopte des manières très exagérées pour humilier la gente féminine, sous couvert d'humour et de performance artistique. C'est même Bad Boys qui écrivent le morceau Under My Thumb, dont le titre est à la fois une métaphore sexuelle et une expression idiomatique anglophone qui signifie « sous ma coupe ».
D'accord, mais quel est le problème a priori ? Ce sont juste des clips et des paroles prononcées, même parfois à la légère. Qu'y a-t-il de grave en réalité ?
C'est cette constante réification, cette chosification qui pose la question de la dignité. On se tourne vers la philo un instant pour éclaircir la notion. Emmanuel Kant nous dit « La dignité, c'est le fait qu'une personne ne doit jamais être considérée comme un moyen, mais aussi toujours comme une fin en soi. C'est précisément ce qui est en jeu ici. Réduire la femme à un objet de désir et de contrôle pour faire vendre, c'est créer et amplifier le fantasme machiste. Mais dans le hip-hop ou le rock, qui sont les genres les plus polémiques, la controverse est de mise. Ce genre de clips, ces textes, visent-ils véritablement à assouvir le désir de domination archétypale masculine au détriment de la dignité des femmes ? Ou bien faut-il les considérer comme étant inhérents à un tournant dans l'histoire, un passage à une ère nouvelle dans laquelle la sexualité est débridée et où l'on se prend simplement moins au sérieux ? Le débat reste ouvert et semble sans fin, mais une chose est sûre, cette tendance contribue à répandre une certaine idée de ce qu'est une femme que l'on nous vend comme un idéal.
Mais les femmes dans ce métier semblent plutôt libres. Regarde, toutes ces stars qui ont explosé ces dernières décennies, c'est bien la preuve qu'elles font ce qui leur plaît.
Eh bien justement non, bien que déjà largement répréhensible, tout cela ne représente que la surface du problème, c'est l'arbre qui cache la forêt, l'aspect artistique que l'on veut bien nous montrer. Alors ce qui se passe en coulisses est beaucoup plus sombre, là où l'industrie exerce toute son emprise sur les artistes. De nombreuses chanteuses se sont vues empêchées de s'exprimer, restreintes par des figures masculines du milieu. Prenons l'exemple plutôt parlant aujourd'hui de Britney Spears. Sa vie entière a fait l'objet de contrôle des hommes. Au début de sa carrière, encore jeune adolescente, elle suivait les directives de son manager qui l'invitait par exemple à se sexualiser pour toucher une audience plus importante. Arrivée à l'âge adulte, elle épouse un de ses danseurs qui aura une influence néfaste sur sa santé en l'incitant à se droguer et faisant d'elle une dépravée toxicomane. Plus tard, avec la pression constante des médias, elle est déclarée inapte à s'occuper de ses enfants et d'elle-même et se trouve placée sous la tutelle dictatoriale de son père, dont elle ne pourra s'extirper qu'au bout de 13 ans. Finalement, elle n'a jamais pu faire ce qu'elle voulait réellement durant sa vie, dirigée par des vents contraires à sa volonté depuis son enfance, alors que tout ce qu'elle voulait était intégrer le Mickey Club et devenir chanteuse. En définitive, l'industrie de la musique et ses requins, de même placés sous l'égide d'un système patriarcal, constituent au même titre que le cinéma, le graffiti, la littérature, une arme qui se trouve être à double tranchant. C'est pourquoi, à mon sens, il faut savoir faire le distinguo entre eux. Le monde tel qu'il est et sa représentation dans l'art, afin de ne pas tomber dans les travers du fantasme et de la violence. Il ne faut pas oublier que tout cela n'est que spectacle, que bien souvent la réalité dépasse la fiction et que l'on nous montre uniquement ce que l'on veut nous faire miroiter.
Merci beaucoup Nathan pour cette très belle chronique. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ces liens entre les VSS et leur forme de légitimisation dans l'art ou d'acceptation en tout cas, parce qu'on se dit bon, finalement ce sont des artistes. Je prends l'exemple de Claude François qui disait il me semble qu'au-delà de 15 ans une femme n'était plus désirable. Il y a peut-être une forme de précaré pour les artistes, qui certains artistes du moins, qui permet de s'exprimer et puis d'assouvir leur toute leur velléité de domination masculiniste. Là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue, Dorothée ?
Oui, bah moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que, enfin, bien souvent la figure de l'artiste, ici artiste au sens très large, enfin, Nathan t'a beaucoup parlé de l'industrie musicale à très juste titre, mais enfin, parce que évidemment si on devait parler de l'art en très large, ce serait un peu compliqué, mais oui, la figure un peu tutélaire de l'artiste qui permet, enfin qui donne une figure de légitimité à des hommes qui ont des, comment dire, oui, qui sont des criminels en fait, hein. Il n'y a pas d'autres mots. Par exemple, bah, on a parlé de Claude François et de la pédocriminalité de Claude François qui est assez importante à souligner. Et pareil, je trouve qu'un exemple très récent et très parlant, c'est celui de Gérard Depardieu qui soi-disant renfère la France. Bon, voilà, certes, enfin, il y a toujours des gens qui trouvent matière à défendre Gérard Depardieu parce que ce serait le monstre sacré du cinéma. Donc oui, il y a bien cette idée que la figure artistique donne un peu tous les droits à certains hommes qui sont des criminels. Un autre très bel exemple qu'on a eu récemment, c'est l'adaptation du livre Le consentement de Vanessa Springora. Je vous recommande d'aller voir ce film qui est extrêmement cru mais extrêmement important aussi, puisque Gabriel Mazneff, dans les années 80, grâce à son statut d'écrivain, pouvait se permettre d'écrire de grosses insanités dans ses bouquins, ce qui ne dérangeait visiblement pas grand monde, y compris dans le milieu intellectuel soi-disant de gauche. Mais oui, du coup, cette question de l'artiste comme figure qui peut faire un peu tout ce qu'elle veut. Aussi, quand on parle du sexisme dans la musique, encore une fois, à très juste titre, j'ai trouvé ça plutôt bien de ne pas commencer tout de suite en parlant du hip-hop et du rap, puisque c'est un biais qu'on retrouve beaucoup quand on critique la misogynie dans l'industrie musicale, c'est le fait de tout de suite se tourner vers le rap, alors que c'est absolument pas le seul genre musical concerné, mais disons que dans cette posture-là, il y a toujours un biais qui est très classiste, qui est très mépris de classe et qui est très aussi d'une certaine manière raciste et xénophobe. Donc c'est important de faire attention quand on veut critiquer l'industrie musicale, de faire attention aux biais qu'on peut avoir soi-même par rapport à ces questions et au genre qu'on cible, alors que, enfin, on a parlé de Claude François et des Rolling Stones, c'est absolument pas une problématique qui est cantonnée au rap ou au hip-hop, mm-hmm. mais qui touche l'industrie dans son entièreté, y compris les personnes les plus respectables, et c'est tout aussi vrai dans les autres formes d'art, que ça soit le cinéma, avec évidemment toutes les, bah, les prises de parole récentes, enfin depuis MeToo, et avec disons la... Ouais, pas la résurgence, puisque on va pas dire que MeToo a disparu, mais le nouveau souffle donné à MeToo par des personnalités comme Judith Godrèche récemment. Oui, voilà.
Elia, est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure sur tout ce qu'on a entendu aujourd'hui?
Je pense que le mot de la fin, je pense que Dorothée le partagera, et pour celles et ceux qui peuvent, eh ben, il y a une manif après, et puis il y a des luttes qui sont... Ok, aujourd'hui dans la rue, mais toute l'année, partout, dans toutes les sphères. Donc ça serait un mot de la fin.
Alors Dorothée, justement sur cette manif, est-ce qu'on a l'heure, le lieu, et puis comment justement essayer de faire évoluer les mentalités très rapidement?
Alors pour la manifestation, c'est aujourd'hui, rassemblement à 15h, place Charles III. Départ de la manifestation à 15h40. Le parcours est assez court. Donc, vous inquiétez pas, ça va pas durer un milliard d'années. Manifestation, le but, c'est d'occuper l'espace et de faire du bruit pour le 8 mars et pour montrer qu'on est là et que la lutte féministe est toujours bien vivante et bien en forme. Et alors, vaste question de comment faire changer les mentalités, mais moi, je dirais tout simplement, déjà, politisez-vous, intéressez-vous à la question. Il y a pléthore de livres, de comptes Instagram, de podcasts, de chansons, de tout ce que vous voulez qui traite des questions liées au féminisme, qui sont disponibles absolument partout, notamment sur les réseaux sociaux. Donc politisez-vous, intéressez-vous à la question. Et aussi, si c'est un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à vous engager concrètement dans des associations locales, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'accueil aux femmes migrantes ou dans des collectifs comme Nous Toutes, évidemment, mais évidemment, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas donc à vous engager concrètement, à faire du bénévolat, à faire des dons aux structures qui en ont besoin. Oui, voilà.
Merci beaucoup. Alors, merci à Nathan pour cette belle chronique. Merci Dorothée. Donc, je rappelle que vous représentez Nous Toutes 54. Merci à Elia, donc ingénieur d'études en sociologie. Et on va se quitter en musique. On parlait de l'engagement dans l'art avec une artiste qui, en 2015, a couru le marathon de Londres sans protection hygiénique, alors qu'elle avait ses règles. Et cela a lancé un gros débat sur la stigmatisation liée aux que subissent les femmes à travers le monde. C'est une artiste que j'admire profondément. Elle s'appelle Madame Gandhi. Et on se quitte avec son morceau Bad Habit, les mauvaises habitudes.
I've got to go.